is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hatada. Nashindwa na mali sina we.
Bonjour, 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 auditrices et auditeurs de Radio Galère pour cette émission Livres et Amis. Nous sommes le mercredi 20 mars et quelques bouleversements à nouveau pour cette émission. Françoise est à Paris, donc ben oui, c'est Dominique qui fait l'émission avec une nouvelle voix, celle de Youssef. Et saut à la technique, peut-être après Louise, enfin bon, tout va bien, nous sommes tous là. Je voulais quand même juste une minute vous dire que Youssef, il est dans une situation vraiment difficile. Là, il est étudiant étranger à Marseille. On est tous contents qu'il soit là. Mais par contre, l'administration française veut le renvoyer chez lui avec une OQTF. Donc, on pense tous très fort à lui. Alors, s'il vous plaît, vous pensez tous très fort à lui. Et voilà, et on le soutient. Et on va essayer de se battre, bien sûr, pour lui et tous les autres dans cette situation. Alors aujourd'hui, ben ça tombe bien, un recueil de textes de Eri De Luca. De Eri De Luca, nous vous avions déjà présenté, je crois, en 2020, Impossible. Et aujourd'hui, on va reprendre, je vais vous en parler dans une minute, un autre ouvrage de Eri De Luca qui s'appelle Grandeur Nature. Alors avant, juste petit point de culture marseillaise. Ne manquez pas à la Baleine et au Gyptis cette semaine et les semaines qui viennent les rééditions des films de Luc Moulet, d'une part, et le printemps du film engagé, d'autre part. Donc au Gyptis et à la Baleine, vous regardez les programmes, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Et au Théâtre de la Joliette, ce week-end, donc vendredi et samedi, il y a deux spectacles ben, engagés, eux aussi. Il y a « À la ligne », qui est une adaptation de Joseph Pontus, qu'on avait lu ici. « À la ligne », en fait, c'est « À la chaîne ». C'est vraiment les conditions de travail des travailleurs des conserveries, des travailleurs des abattoirs qui sont... raconté dans une très belle langue, mais d'après la réalité réelle, si on peut dire, de ce que vivent ces gens dans leur travail. Et puis Tijuana sur les migrants et les migrations, justement. Même si c'est en Amérique du Nord, ça dit bien aussi la difficulté de vivre de gens qui tâchent de passer les frontières dans des conditions souvent exécrables. Alors, revenons à l'ouvrage de Eri De Luca qu'on vous présente aujourd'hui. C'est en fait un ensemble de récits sur la filiation, sur les relations parents-enfants, sur la transmission, dans un style toujours épuré et imagé à la fois. Un texte qui va à l'essentiel, qui nous transmet un vrai message au fil des lignes. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Eri De Luca, c'est un écrivain italien né en 1950 à Naples, qui est ancré dans ses racines napolitaines, mais qui a une vie assez surprenante, tout en étant justement très attaché à son terroir napolitain. Il a refusé la condition bourgeoise de sa famille. Il a mené une vie de lutte populaire d'abord et de recherche intellectuelle à la fois. Il a été engagé avec les révolutionnaires italiens de Lotta Continua dans les années 60 et 70. Il a même risqué la prison à certains moments. Et puis, ensuite, il a continué à travailler en usine, à la Fiat, à Turin et dans d'autres entreprises, tout en menant une recherche personnelle approfondie sur les langues, sur la culture biblique, sur la culture hébraïque. Il a appris l'hébreu, il a appris le yiddish, il a appris le français, il a appris un certain nombre d'autres langues. Il a rencontré des rescapés de la Shoah. Et on verra tout à l'heure dans une des nouvelles du recueil qu'il a été très marqué par cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale, du nazisme, de l'Holocauste, etc. Et puis, il a aussi beaucoup exercé, si on peut dire, ses loisirs dans l'alpinisme de haut niveau, comme les personnages de Impossible, si vous vous en souvenez, et comme certains personnages des nouvelles de ce recueil donc, qui s'appelle Grandeur Nature. Revenons donc à notre livre d'aujourd'hui. Grandeur Nature, on le disait, c'est un ensemble de textes liés aux relations parents-enfants avec des domaines très différents selon les nouvelles. Et bien sûr, Grandeur Nature pour des sentiments qui sont en principe des sentiments naturels, mais qui sont ici dans certains textes menés jusqu'à l'extrême. Et qui sont donc des moments vécus soit dans la réalité, soit dans l'éloignement, soit dans le rêve. Donc le premier texte que je vais vous lire, je redonnerai la parole à Youssef après. Le premier texte que je vais vous lire, c'est un, je ne sais pas comment on peut dire ça, un genre de compréhension ou de lecture justement très personnelle par Éric De Luca. D'un des premiers tableaux parisiens de Marc Chagall. Marc Chagall qui est évidemment devenu au cours du XXe siècle un des peintres les plus connus du monde, mais qui au début du XXe siècle était lui aussi un petit immigré russe à Paris. Et le premier texte s'appelle « Le Père ». C'est un tableau de Marc Chagall que je vous invite à aller voir. Je pense que vous le trouverez sur Internet. Et en fait, Éric De Luca a une lecture très personnelle de ce tableau puisqu'il le rattache à la fois à son père, à lui, son père russe à Vitebsk, et puis à la relation d'Abraham avec Isaac, donc le père et le fils, le père qui va sur l'ordre de Dieu sacrifier le fils, ou presque. Alors, allons voir ce que dit... Voilà, ce que dit Éric De Luca de ce tableau de Marc Chagall qui s'appelle « Le Père ». En 1910, Marc Chagall est à Paris. Il habite près des abattoirs. Il entend des mugissements de bêtes terrifiées et il peint des vaches ou des chèvres. Il vit dans un lieu dont rêvent tous les artistes, mais pour lui, c'est aussi une seconde naissance. La Seine lui rappelle les plongeons dans la Dvina, la rivière de son enfance. Et il écrit en français par désir d'adoption. Avant Paris, il est allé à Saint-Pétersbourg grâce à quelques subsides paternels. Il gagnait sa vie en peignant des enseignes pour des boutiques. Et à Paris, il se souvient que c'est là-bas, sur les bords de la Neva, qu'a eu lieu sa première exposition, une espèce de galerie à ciel ouvert qui se balançait au vent entre une boucherie et un marchand de fruits. Alors il est encore Marek, pas encore Marc, mais entre-temps il côtoie de nouveaux peintres et il pense bien sûr à son père resté à Vitebsk, en Biélorussie, marchand de harengs. Il écrit dans une page de son journal « Avez-vous vu dans les tableaux florentins un de ces personnages à la barbe négligée, aux yeux noirs, parfois cendrés d'une couleur ocre, terre cuite, couvert de poils et de rides ? C'est mon père. Il soulevait de lourds barils et mon cœur se ratatinait comme une pomme en le regardant lever ses poids et remuer les petits harengs avec ses mains gelées. Ses vêtements étaient luisants du sel des harengs. Des reflets tombaient tout autour de lui. » Seul son visage, un peu jaune, un peu clair, affichait par moments un faible sourire. L'émotion, mise en couche de couleurs, vient d'un remords et d'une gratitude tardive. les mains de son père, marchand de harengs, abîmées par la glace, les mains jamais baisées par ses fils, sont encore présentes dans l'esprit de Marek Mark. Il n'a pas osé les représenter, les mains. Il représente juste le village, le visage. Il n'était pas vraiment fier des mains et de leur odeur. Chagall, fils, s'est écarté de l'ombre de son père. Il n'a pas repris son métier. Il a voulu se débarrasser de l'odeur du poisson. Et il l'a recouverte avec l'odeur des huiles de la peinture, avec le solvant de la térébenthine. Les enfants ont souvent un odorat sélectif. Ils excluent ou incluent selon ce qu'ils sentent. J'ai eu des camarades qui, comme ça, s'écartaient de personnes à côté desquelles ils ne voulaient pas s'asseoir parce qu'ils sentaient l'étable, le lait, le fumier. Marek, lui, ce dont il voulait s'éloigner, c'était l'odeur de hareng, l'empreinte de poisson dans toute la maison. Loin des caisses soulevées par son père et des doigts déformés par l'arthrite, Marek a voulu apprendre la légèreté, l'application précise de la touche qui effleure la toile. Il étudie à Paris, après l'avoir fait là où il était né, à Vitebsk et aussi à Saint-Pétersbourg. Il a appris à Paris à forcer le trait, à appuyer sur le cou du pinceau d'un air sauvage. Il a appris à laisser pour les femmes, par exemple, le léger coup de pinceau. Et quand il repense à son frère à Vitebsk, au massacre des Juifs, qui a aussi coïncidé avec l'époque de sa naissance dans cette ville, il se souvient, en colère contre lui-même, il se souvient de ce qu'il a laissé derrière lui, même si c'est pour retrouver Paris. Et à Paris, il rencontre à nouveau son père avec le tableau qu'il en fait. Il s'arrête, il s'approche de la toile, il s'en éloigne. Dans l'espace blanc où va être le visage de son père, il dépose un baiser. Il le voit quasiment à travers ses larmes. Il replace la toile sur le chevalet, il se replace par rapport au chevalet. Il va indiquer, oui, des joues maigres, il va indiquer un masque comme un carnaval yiddish, des cernes rouges qui sont la marque du métier, un mélange de sueur, de saumure, d'insomnie, de journées commencées bien avant l'aube, celles des travailleurs qui se réveillent avant le soleil et qui ne savent rien finalement du jour qui se lève en même temps parce qu'ils sont dans le hangar avec les caisses de harengs, avec la saumure. Marek pleure et il peint. Et là, dans l'aube d'un siècle jeune, Marek voit l'obscurité s'effacer derrière les vitres, derrière lui, sur Paris, et il peint encore. Et sur le portrait, il représente son père comme lui, avec la bouche semi-ouverte. La Vitebsk des Juifs s'est vidée, la révolution en Russie va finir de vider ces zones des Juifs qui vont émigrer vers l'Europe occidentale et aussi vers l'Amérique. Alors, à Paris, Marek absorbe, filtre, sent la peinture. C'est l'essence d'un siècle nouveau, c'est l'essence d'un siècle qui va révéler bien d'autres choses ensuite. C'est l'aube, le tableau est presque fait. Son père est là, devant lui. C'est un tableau qui veut équilibrer le déficit entre l'œuvre d'un père et l'absence de gratitude manifestée par le fils à l'époque. Alors, c'est là qu'il dit « Ton fils te remercie avec ton portrait composé maintenant à l'aube d'un nouveau XXe siècle. Ton fils déjà révolutionnaire en peinture qui commence par reconnaître l'égalité de tous les peuples avec les Juifs. Il adhère à cette égalité, Marek, Marc. Il va avoir la renommée, il s'éloigne de son tableau, il s'en rapproche, oui, il est satisfait. Il ne sait encore rien de ce qui va se passer dans l'Europe envahie par les nazis. Il ne sait rien des massacres qui seront bien pires encore. Mais lui, il sera à ce moment-là en Amérique. La vie de Marek, devenu Marc, c'est la vie d'un homme du XXe siècle, avec ses promesses et les menaces du siècle au-dessus de lui. Voilà, ça c'est l'histoire du père, l'histoire du père de Vitebsk. Et dans le texte, Eridulka rapproche ce père de Abraham. Il y a des petites incises dans une écriture différente, dans une impression différente en italique. Il y a des petites incises sur Abraham et Isaac et sur l'obéissance de Abraham à Dieu, l'obéissance de Isaac à son père. Et puis le fait que, bien sûr, oui, Abraham épargne Isaac, puisque Dieu lui dit « épargne-le ». Abraham écarte les doigts du couteau, Isaac attend la gorge tendue. En fait, il y a eu la voix, et puis il y a eu les liens, les nœuds qui se sont défaits. Un peu comme un alpinisme, comme certains grimpeurs qui font autour de leur taille un nœud qui peut se défaire pour sauver la vie du partenaire si jamais on tombe. Voilà, ça c'était la conclusion personnelle de Eridulka. Et en même temps, donc mêlé à l'histoire de Abraham et de Isaac, eh bien, on va revenir à d'autres histoires. Et après la leçon de peinture, on va passer à une leçon d'économie. On a eu la leçon de peinture avec la question de la soumission, de l'obéissance, un genre de leçon d'enfance. Eh bien, on va avoir de nouveau la leçon d'enfance avec une histoire qui ramène le jeune Eridulka à Naples. Alors, comme Youssef est nouveau, je vais lui donner quelques indications, vous ne m'en voudrez pas, au fur et à mesure. Oui, il faut lire là où il y a les petites étoiles, et puis il faut passer quand il y a une flèche. Allons-y.
Autrefois, on lisait des livres un couteau à la main. Rien de très aventureux. Les pages devaient être séparées et rognées le long des bords. On obtenait à la fin des livres effrangés. Mon père lisait et coupait pendant que je jouais entre ses pieds en silence, le soir avant le dîner. Il m'est arrivé d'avoir dans les mains une édition à couper et je m'en suis souvenu. Autrefois, on utilisait un coupe-papier. Moi, je me suis servi du couteau à pain. La pauvreté était à notre porte, mais chez nous, nous n'avons jamais manqué de nourriture, de vêtements, d'instruction. Même un enfant distrait comprenait que la pauvreté existait et ce que c'était. Manque d'espace, de souliers, de dimanche, de satiété. L'affection aussi manquait. Les enfants des pauvres encaissaient des coups à me laisser sans souffle. Moi, qui les entendais battre comme un tambour depuis la rue, jusqu'à mes oreilles bouchées. C'était la faute de l'argent, le manque d'affection. Je regardais les pièces de monnaie, celles de 5 lires avec un dauphin sur une face et un timon de l'autre. Celles de 10 lires avaient une épée, une pie et une charrue. Elles avaient de la valeur en échange de quelque chose, ou bien pour faire l'aumône, qui n'était pas un échange. Maman en donnait à ceux qui la sollicitaient la main vide. « Tu fais la charité ?» demandai-je. Non, je fais l'aumône. La charité n'a rien à voir avec l'argent. Et avec quoi elle a à voir? Je posais des questions et elle en avait assez de répondre. L'argent était invisible, ceux qui en avaient pouvaient acheter dans les magasins sans le montrer. Je note? Notez. Le commerçant retirait un bout de crayon de derrière son oreille et écrivait la somme non payée à solder en fin des mois. Inutile de demander à maman, je devais comprendre tout seul la question de l'argent. Les gens bien habillés ne payaient pas. Les autres étaient obligés, sinon rien. Dans les magasins, il y avait une pancarte. À cause de quelqu'un, on ne fait crédit à personne. J'ai mis du temps à comprendre que le crédit est une façon de ne pas payer tout de suite. La pancarte servait à décourager les pauvres. Quelqu'un, c'était eux. La cause, c'était la pauvreté. Ils savaient bien que le crédit se pratiquait, les gens bien habillés sortaient sans payer. Je note, notez.
Mais un boulanger faisait crédit aux pauvres aussi. Alors, j'ai décidé que c'était la charité. Ce n'était pas une question d'argent, comme l'avait dit maman. Mes parents appartenaient aux gens bien habillés, mais ils payaient chaque fois leurs achats. Ils ne voulaient pas de dettes, tenir un cahier de compte. Ils m'ont transmis cette habitude, je paye tout de suite. Pas de traite, si j'ai de l'argent en poche, j'achète, sinon rien. Je ne me souviens pas s'ils nous donnaient de l'argent toutes les semaines. Ma mère me remettait chaque jour la somme exacte pour le bus. Aller-retour au printemps, je rentrais à pied. Et je gardais les 50 lires. J'allais déjà au lycée un jour où le bus du retour tardait. Je suis entré dans un bar à côté. Je me suis offert mon premier café. Je fus étonné de voir à quel point il était bon. À la maison, je fis part de cette découverte à ma mère, celui qu'elle me donnait le matin était différent et plus mauvais. « D'accord, tu as devenu le matin que je vous prépare de l'orge en vous disant que c'est du café. À partir de demain, tu auras du vrai. » Elle prolongeait l'enfance avec l'orge. Elle avait fallu un café au bar pour s'en affranchir.
Et oui, c'est toute la révélation de l'enfance, en effet. Et en même temps, comme je vous disais, la leçon d'économie, puisque, en effet, dans la famille, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on ne devait pas dire qu'on était pauvre, bien sûr, parce qu'on était d'origine bourgeoise. Alors, finalement, la maman faisait boire de l'orge grillée à ses enfants, en bannière de café. Et la révélation du vrai café, c'est presque le passage à l'âge adulte. On va continuer un petit peu, et Youssef va continuer la leçon d'économie avec quand il a encore un peu grandi et qu'il devient indépendant et qu'il quitte à la fois l'école et la famille.
Il fallait que je me procure tout seul la manne pour me nourrir. J'ai trouvé une place de livreur dans une autre ville et j'ai appris à gérer mon argent et à m'en contenter. Ce fut mon école obligatoire de l'économie. Depuis lors, je n'ai pas fait de progrès en la matière. Le travail ouvrier est venu plus tard. Lors de mes visites, je parlais à mon père de ces outils mécaniques que j'utilisais, le tour, la fraiseuse, la presse, le marteau-piqueur, les chariots métalliques à pousser dans les avions de transport, la raboteuse de surface et d'épaisseur de la menuiserie, la scie à ruban, la bétonnière. Ça l'intéressait pour me comprendre, moi. Pas
oui,
mon
ça
travail.
Aussi, c'est la relation père-fils.
Elle était licenciée en sciences économiques et gestion et elle avait trouvé un emploi après la guerre. Un fils livreur en usine, dans la maçonnerie, elle ne pouvait l'imaginer. « Tu sais faire des soudures ?» J'ai été l'assistant d'un soudeur sur un chantier et j'ai eu les yeux en feu plusieurs nuits. Elle m'avait dit de mettre des tranches de pommes de terre crues sur mes paupières pour me soulager. Ça marchait. Nous bavardions ainsi pendant mes visites. Nous n'avons pas parlé des années difficiles de mon nom dans les fichiers de la police. Il ne m'a rien demandé et il s'est épargné un laissé-tomber. Mais il nous a aidés pendant ces années-là. Il a donné un toit à ceux d'entre nous qui avaient besoin de rester à l'écart. Je lui demandais et il faisait. Je n'y voyais rien de spécial. Beaucoup de gens proposaient de nous aider. Nous, les indisciplinés politiques affrontant les matraques et les boucliers, puis les tribunaux. Mais c'était spécial venant de lui, conscient des risques. Il savait que j'écrivais des histoires. Je lui en ai fait lire certaines. Alors un jour, à 30 ans passés, il m'a dit qu'il voulait me donner un salaire pour que je cesse les travaux de force et que je me consacre à l'écriture. Ce fut la plus généreuse invitation à retourner à l'enfance, à dépendre à nouveau de lui. Je n'ai pas voulu le blesser par un sourire. Je lui ai dit que ma vie ne me déplaisait pas au point de devoir en changer. Si elle me déplaisait, c'était par manque de temps pour écrire plus. Il me suffisait, en marge de ses journées de salaire, au réveil avant de sortir, le soir avant la fatigue ne prenne le dessus.
Oui, je ne sais pas si on va s'arrêter là ou si on continue encore un petit peu. Ah oui, c'est ça, oui. Ben, si tu peux continuer jusque-là.
D'accord.
On s'arrêtera ici.
Je lui ai dit que nous n'avions jamais parlé d'argent et que c'était pour moi un privilège princier. Je lui étais reconnaissant de cette discrétion préservée entre nous. Elle n'a pas insisté, n'a pas renouvelé son offre et ne m'a pas dit d'y réfléchir.
Oui, donc c'est après la relation de Chagall avec son père, ben c'est vraiment la relation de Eri De Luca avec son père. Et en même temps, comme je disais, un cours d'économie et un cours de gestion pour les classes populaires au milieu du XXe siècle à Naples. On va rester à Naples avec la musique typique, je dirais, du sud de l'Italie. C'est la tarentelle. Alors, vous verrez, c'est un peu folklore, là, la version. Mais enfin, quand même, ça fait plaisir, la tarentelle. Et c'est Louis qui est arrivé, donc merci pour la tarentelle.
Tarentella, sempre quella, sempre bella. Ciao amore, saluti, auguri. Andiamo, questa è la vera serata italiana. Forza maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta Zazà? Io penso che sono innamorato di lei. Andiamo insieme. Hey! Hey! Allora va bene. Continueremo. Hey! Questa bella danza, questa serata italiana. Ecco le mani, le mani, le mani, le mani. Dove si balla bene? E Giuliana, dove sta Matteo? E adesso forza, l'ultima volta!
Giuliana, Giuliana, l'ultima volta. Alors, oui, c'était la tarentelle. Je pense que vous pourrez aller en chercher vous-même plein, hein, sur YouTube, des tarentelles. Il y en a des tas différentes. Là, il m'en fallait une pas trop longue. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié les 2 minutes des tarentelles. Et on va vraiment quitter l'Italie avec une autre nouvelle qui s'appelle Le tort du soldat. En fait, le Tort du soldat, ça se passe dans les Alpes. Je vous ai parlé tout à l'heure de Eri De Luca en alpiniste. Il a de nombreuses expériences d'escalade au Népal, dans les Alpes, dans les Dolomites en particulier. Et là, il nous raconte une histoire qui est ce qu'on appelle en littérature un récit enchâssé, c'est-à-dire une histoire dans une histoire. Il nous raconte une rencontre qu'il a faite, lui, avec, je vous ai dit qu'il s'intéressait au yiddish, avec un homme qui est traducteur de yiddish. Et en fait, cet homme lui raconte une autre histoire. C'est un peu ça que je vais vous présenter maintenant. L'histoire centrale, on ne la racontera pas parce qu'elle est, elle est très longue et un peu complexe. Mais en tout cas, le cadre, lui, le récit qui sert d'encadrement, il est déjà intéressant pour nous situer justement un petit peu la relation de Herri De Lucca à l'Europe centrale, au Yiddish et à la Shoah. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Apprendre une langue, c'est comme planter un petit arbre. Ses racines sont entortillées et serrées dans le pot de la pépinière. Et il en est de même quand on ouvre une nouvelle grammaire. Les racines du petit arbre vont s'ouvrir et véritablement s'enraciner dans la terre. Alors, en ce qui concerne le yiddish, la langue yiddish, c'est encore un arbrisseau nouveau. Pour moi, un arbrisseau hésitant dans son nouveau terrain au début, et puis qui a fait sa place lentement. Et ainsi, il s'est ramifié dans ma mémoire avec l'allemand, avec l'hébreu, avec des notions que j'avais déjà. Mon yiddish remonte au printemps 1993. Je me souviens de l'année parce que c'était le 50e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et donc, la dernière année pour les derniers juifs restés au ghetto de Varsovie. Les autres centaines de milliers étaient montés de force dans les wagons en direction de la petite gare de Treblinka. Je me suis rendue à Varsovie pour cette commémoration du cinquantenaire et je suis revenue avec l'intention d'étudier le yiddish, cette langue des anéantis ou de quelques survivants. La première partie du XXe siècle, pour moi, c'est comme une jambe amputée qui fait souffrir, même absente. Je suis née juste dans la deuxième partie du XXe siècle, mais je sens encore les élancements de cette mutilation, de ces nerfs qui me manquent et qui ne se sont jamais adaptés à la perte du membre. Il y en a d'autres, évidemment, de la seconde moitié du XXe siècle qui éprouvent le même engourdissement. Alors oui, cette année-là, j'ai acheté une grammaire de yiddish en anglais qui avait été imprimée à Oxford, un des endroits où on cultive encore cette langue comme sous serre. Et aujourd'hui, on organise des visites des camps de l'anéantissement. Des groupes d'étudiants circulent dans l'enceinte marécageuse, en Haute-Silésie, à Auschwitz, en Pologne et ailleurs. Il y a ceux qui sont passés dans les grandes chambres des fausses douches et qui ne pouvaient pas imaginer ce qu'on allait faire à leur corps. Et puis il y a ceux qui restent, justement, ceux qui restent de leur corps, les lunettes, les dents, les cheveux. L'histoire se permet d'étranges familiarités avec les victimes, croyant peut-être comme cela les dédommager. Les bourreaux, les rares qui ont été poursuivis dans des salles de justice ont refusé l'accusation de Kriegsverbrecher, criminel de guerre. Par exemple, Jürgen Straub, le liquidateur du ghetto de Varsovie, peu de temps avant d'être pendu, il a encore dit lui-même qu'il était sogenannte Kriegsverbrecher, c'est-à-dire soi-disant criminel de guerre. L'adjectif qu'il utilisait niait le substantif qu'on voulait lui attribuer. Je suis allée un jour à Birkenau-Breznica. Un jour d'avril, de nuages bas, je suis entrée seule dans ce périmètre. J'ai marché entre les baraquements ouverts, où il est resté pour l'éternité l'humidité, la moisissure de la terreur. Je me suis assise sur une couchette basse en bois qui avait accueilli le corps des exténués, dans le silence compact du petit matin. J'ai peut-être moi-même dormi quelques minutes allongée sur ce bois. J'étais indemne, mais je pouvais mesurer l'étendue de leur cauchemar. Et puis j'ai descendu les marches qui menaient aux chambres à gaz que les nazis avaient fait sauter avant de partir, les marches qui menaient au four crématoire attenant. Il y avait eu cet espoir d'effacer l'épreuve, sans doute. Et puis je suis remontée à l'air libre. J'ai repris ces marches dans le sens de la montée, comme un invité qui s'était présenté en retard. D'autres visiteurs erraient dans le camp, avec une consistance d'ombre, eux aussi. Je suis restée jusqu'à l'heure de la fermeture, et avant de sortir, je me suis penchée sur le ballast de la voie ferrée en ruine, ce ballast où les wagons terminaient leur course. J'ai ramassé un boulon rouillé. Je ne saurais dire si j'ai commis le vol d'une relique. Voilà, je vous relatais ici une histoire qui m'est arrivée, et une histoire que j'aurais pu échanger avec justement celle de mon ami traducteur du yiddish, rencontré un jour dans un congrès. Et non, nous ne sommes pas nombreux à parler cette langue, surtout en Europe. Elle disparaît avec les survivants, et les survivants ne l'ont plus beaucoup pratiquée. Alors, le copain traducteur et moi, nous avions fait connaissance au cours d'une soirée libre après cette conférence. Il n'était pas juif, mais son grand-père l'était. Il avait fait partie des Spartakistes à Berlin en 1918. Il avait connu Rosa Luxembourg, il avait émigré en Amérique. Il avait épousé une femme à la peau rouge, une Cherokee. Alors oui, le grand-père parlait yiddish, une langue secrète. Et pour le petit-fils, le yiddish, c'était comme une langue tellement secrète qu'il avait cru que c'était son grand-père qui l'avait inventé pour communiquer avec lui. Après la mort du grand-père, il l'avait oublié, et puis il l'avait reconnu un jour, comme ça, dans un faubourg de New York, et il s'était étonné qu'elle existe vraiment, il avait voulu l'étudier. Voilà, un peu comme moi. D'ailleurs, avec ce copain traducteur, on a découvert qu'on avait aussi le même intérêt pour l'alpinisme. Lui aussi pratiquait un peu l'alpinisme. Et l'histoire qu'il m'a racontée, c'était l'histoire d'un bourreau, justement. L'histoire d'un soldat vaincu par la guerre. Et c'était l'histoire de sa relation qu'il a découverte de façon complètement fortuite avec sa fille, qui ne pouvait pas accepter d'avoir pour père un bourreau de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il a surpris un dialogue un jour. C'est ça le récit enchâssé. Je vais juste vous en lire un paragraphe. Le père dit: tu demandes qui tu as comme père ? Je suis un soldat vaincu par la guerre. C'est ça ma faute, mon unique faute, c'est la défaite. C'est le seul grand tort qu'en tant qu'homme, j'ai pu faire à ma patrie. Et elle le coupe et elle lui dit : le tort du soldat ? Le seul tort du soldat, la défaite ? Face à l'extermination systématique d'innocents sans défense ? Le seul tort du soldat se réduit à la défaite. Mais tu pourrais gagner toutes les guerres du monde, tu serais quand même encore un criminel. Et tu as éprouvé le besoin de te cacher, bien sûr, mais même pas de te cacher derrière les ordres reçus, comme l'ont fait d'autres, qui, eux, ont été traduits en justice. Voilà, donc c'était une relation évidemment très précise et très particulière entre un père bourreau et une fille qui conteste bien sûr son rôle dans l'histoire et qui ne peut pas l'accepter. Mais on va passer maintenant à une histoire complètement différente. Si vous voulez l'histoire en entier du tort du soldat, il faudra que vous vous reportiez au récit intégral qu'en fait Eri De Luca dans Grandeur Nature. On va passer à quelque chose de complètement différent avec un récit que va nous lire Youssef et qui est une lettre que une fille ou un garçon, peut-être que vous déciderez vous-même, écrit à sa mère à un moment très particulier. Allez, on va quand même vous dire que le fils ou la fille est prisonnier ou prisonnière et voilà ce qu'il ou elle écrit à sa mère.
Depuis des années, je ne les entends plus. Un cale a dû se former sur les osselets de mes oreilles. Ils ne laissent pas passer le bruit des clés ou des portes en fer claquées. Elles résonnent sans plus m'atteindre dans les couloirs poncés par des architectes sourds qui n'ont jamais passé une nuit en prison. Depuis des années, pour cet espace fermé, je dis ma cellule. Le possessif m'a uni au mot « cellule », une absurde propriété. Je ne me rappelle pas quand cela a commencé, au retour d'un interrogatoire
d'une séance de procès. J'ai dit ma cellule et je ne me suis pas mordu la langue. La cellule est devenue mienne. Chère maman, je t'écris pour te remercier. Au bout de 10 ans, je suis sorti ce matin à travers toutes les portes verrouillées. La dernière m'a donné le vertige, c'était la frontière du monde, les colonnes d'Hercule franchies par Ulysse, le détroit de Gibraltar. Derrière, il y avait l'océan. Je me suis servi des menottes qui entouraient mes poignets pour me préserver de la lumière, de l'air, de l'odeur, de la liberté. Au-delà de la porte d'entrée se trouvait indifférente, effrontée, impérieuse, la liberté de l'extérieur. Je n'étais pas invité, seulement accompagné au cimetière pour te saluer. On ne m'a pas laissé voir mes parents, la famille dans laquelle j'ai grandi. Mais c'était mieux ainsi, si nous ne pouvions pas nous embrasser. Je t'ai rarement vu les yeux fermés. Une fois, ce fut au cours de ta première visite en prison. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce n'était pas un reproche envers moi, c'était ton désarroi. J'aurais voulu te caresser. À ce moment-là, tu étais la fille que je n'ai pas eue. Il y avait la vitre séparatrice. Je ne pleure pas, maman. Pour sortir, les larmes ont besoin, elles aussi, de la liberté. Merci de ces heures en plein air pour ce maudit rendez-vous. J'ai regardé en haut. Le ciel sans mur, et les petits dans la cour de l'heure de la promenade. Un rectangle. Jean calcule le périmètre. Au cimetière, elle était dans toute son étendue, incalculable, sans un bout de nuage pour couvrir sa nudité. Il était vide, sec comme mes yeux. Elle m'a mise en colère. Il était à gifler. Le mur, je les avais de chaque côté, deux gardiens tenant les chaînes attachées aux menottes de mes poignets. Deux gardiennes muettes, plus jeunes que moi, qui escortaient mes pas sans me presser. Un passant avec des fleurs à la main nous a croisés. J'ai cru un instant qu'il voulait me les offrir. Qui sait si ce geste de galanterie existe encore? Je n'ai pas les cyprès. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Ils ne font pas d'ombre. Au sol, on ne voyait que les nôtres alignés côte à côte. J'aime les arbres touffus qui ont la forme de champignons géants. Je les dessine en mémoire sur mes cahiers, remplis de ma forêt de chênes, de conifères, de hêtres. Ici, j'ai appris à dessiner. Je lis les livres de la bibliothèque. Je me souviens en particulier de « Ne tirez pas sur l'oiseau mon cœur ». D'une écrivaine américaine. J'ai copié la phrase qui fait dire à son protagoniste « Avant de vivre en paix avec les autres, je dois vivre en paix avec moi-même. La seule chose qui ne doit pas céder à la loi de la majorité est la conscience de l'individu. C'est comme ça pour moi aussi. La conscience est indépendante des majorités. Elle doit forcément être une minorité. Je l'ai appris de toi. » De tes disputes avec papa qui feignait l'appartenance à un milieu bourgeois, ce que nous ne pouvions nous permettre. Nos voisins faisaient semblant de partir en vacances. Ils chargeaient leurs bagages puis revenaient la nuit en cachette. Nous ne les avons pas imités parce que tu t'es refusé. Mais nos vêtements devaient être propres et repassés le dimanche. C'était une question de dignité. Ça ne s'apprend pas. Papa jouait au loto sportif. La conscience est une minorité, même en tout individu qui l'a fait taire par commodité. Je purge la peine qu'on m'a donnée. Il me revient, je ne blâme personne. À partir d'aujourd'hui, elle me pèse moins. Sans toi qui as fait la queue pendant 10 ans devant la porte de la prison pour être fouillé, ensuite jusqu'au sous-vêtement. Les bonnes choses que tu me cuisinais m'étaient remises en morceaux, fouillées elles aussi. Les gâteaux étaient éventrés. La pastiera de Pâques réduite en bouillie. Je ne la mangeais à la petite cuillère. Je la mangeais à la petite cuillère, les yeux fermés, comme si c'était toi qui me faisais manger. Une fois allongé, tu as enfin les mains au repos. Elles sont encore enflées par les travaux. Tu as les cheveux plissés, comme lorsque tu cousais, et les cheveux courts de ta jeunesse. Tu ne m'as jamais écrit que tu les avais coupés. Tu es très belle. Les deux rides de ton front se sont détendues. Elles dessinent un sentier. Tu m'as mené ramasser les mûres l'été, la chicorée l'hiver. Elles sont à tout le monde, me disais-tu. C'est pour ça qu'elles sont bonnes. Je n'entends plus les cigales que tu aimais entendre. Je m'invente leur son cette dernière fois ensemble. Combien de temps s'est écoulé? Pas depuis cette époque, non. Depuis que je suis près de ton cercueil. Que dis-je? Ce n'est pas le tien. Ce n'est qu'une enveloppe et toi, tu es ma lettre. Combien de temps s'est écoulé? Compté en minutes, mais en grains de sable. Non en minutes, mais en grains de sable, dans le col d'un sablier. C'était un temps éboulé, tombé sur le fond par un tic-tac d'horloge. Je ne l'ai pas ici, je ne décide pas des heures, elles ne sont pas à moi. Ce temps près de toi, oui, il a été à moi. Un jour, je sortirai d'ici, je marcherai de nouveau en ligne droite, j'userai la semelle de mes chaussures. Je porte les mêmes depuis 10 ans et elles sont encore neuves. Entre nous, rien ne se referme, rien ne se conclut. Nous deux, nous continuons dans la distance qui a été une condamnation et qui est une alliance maintenant. Formons une paire comme les jambes, l'une avance d'abord, puis c'est au tour de l'autre. Ne nous croisons pas. Nous avançons. Nous sommes les générations. Nul ne peut nous arrêter. Merci maman. Elle est plus légère ce soir. Ma cellule, la mienne.
Oui, merci maman. Merci maman, cette relation en effet très spéciale de la prisonnière, peut-être, à sa mère pour l'enterrement de celle-ci. La seule liberté, en effet, qu'on lui permet, c'est d'aller à l'enterrement de sa mère. Alors, c'est épouvantable et en même temps, oui, en même temps, on l'a entendu dans ce texte, une vraie libération. Et pour aller vers une libération un petit peu différente, comme dernier texte de ce recueil de Eri De Luca, Grandeur Nature, je vais vous lire un petit récit qui s'appelle Expression artistique. Et vous allez voir, expression artistique, en fait, c'est la description très précise du pavé romain. Et le pavé romain, moi, je ne l'ai jamais regardé de très près, mais je connais bien le pavé parisien. Je connais bien la façon dont les pavés parisiens sont rapprochés les uns des autres, les petits arcs de cercle que représentent les pavés parisiens, quand on les voit encore, parce qu'effectivement, depuis 1968, on a beaucoup recouvert de bitume les pavés parisiens. Mais il y a quand même encore des endroits où on les voit et où on voit cette espèce de petits dessins géométriques qu'ils forment grâce justement à leur géométrie tout à fait précise. Alors, on va passer au pavé romain, mais vous allez voir, c'est très précis aussi. 12 fois 18 cm ou bien 12 fois 6 cm. Ce sont les mesures après la taille de la roche volcanique qu'on appelle leucitite. Plus connu sous le nom de pavé romain. Les pavés romains qui recouvrent les rues de Rome depuis le XVIe siècle grâce au pape Sixte V. Et la pose des pavés ne requiert pas de liant. Il suffit de les battre sur un fond de sable et de pouzzolane avec un instrument qui s'appelle la hie. Et oui, sous les pavés, la plage, c'est bien connu. Cette mise en place des pavés a favorisé son usage abusif et politique par l'intermédiaire du verbe « dépaver ». Il suffisait d'un coin pour détacher le premier du sol et après les autres suivaient. Des deux formats classiques, le plus pratique était le second, moins lourd et quand même moins difficile à manier. Les étudiants en physique de l'université La Sapienza de Rome calculèrent sa portée moyenne à environ 10 mètres, juste le levier d'un bras masculin. 1968 fut l'année académique du pavé romain, comme du pavé parisien, extrait de sa base et projeté en l'air. Moi, j'étais arrivée dans la capitale au cours de ces mois d'insurrection d'une jeunesse qui avait cessé d'être docile pour se consacrer à la critique de toute autorité. Institutions, partis, recteurs, proviseurs, surveillants, parents, magistrats, forces publiques, préfets, commissaires, tout titre d'autorité était désormais rejeté. Outrage à agents de la force publique, c'était encore moins grave que les articles du code pénal transgressés. J'ai appris la démocratie des assemblées, l'éloquence des mots d'ordre, les votes à main levée, une jeunesse nouvelle qui, de fond en comble, prenait la parole et ne tolérait plus qu'on la lui retire, même dans une salle d'audience où elle était jugée par groupe ramassée dans la rue. Nous prenions conscience de quelques vertus. Nous étions nombreux, nous, les enfants de l'après-guerre. Nous étions cet élan d'un peuple dans son élan, justement, à se reproduire après les décimations. Nous étions aussi la première génération cultivée en masse. Et oui, les deux vertus réunies, l'éducation, la culture, étaient incendiaires. Cette jeunesse inattendue essaimait hors des amphithéâtres, dans les rues, oui. Elle gonflait les rues de Rome, elle entrait en collision avec les troupes de la première brigade mobile de police spécialisée dans la répression des manifestations. J'avais l'âge de cette jeunesse, j'en étais une partie. L'alternative aurait été de déserter ses rangs, mais non, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Donc 1968, ce fut une année à l'origine de choix péremptoires, dedans, dehors, avec ou contre. Tous ensemble ou seuls. Je suis entrée au cœur des cortèges. À notre passage rythmé par des syllabes scandées en chœur, répondaient des milliers de voix, répondait aussi le bruit des rideaux de fer baissés sur notre parcours. Et de temps en temps surgissaient les pelotons, les boucliers, les uniformes, les matraques, les lacrymogènes. La jeunesse bigarrée serrait les rangs, bras dessus, apprenant à ne pas reculer, apprenant à lancer les pavés. C'est là que commença l'usage abusif des pavés par l'intermédiaire du verbe « dépaver ». Lorsque j'en pris un en main, il me sembla peser une tonne. C'est le poids, oui, au début, mais après une étude balistique, le lancer avait pris sa portée de 10 mètres ou 12 mètres même. Et donc, la distance entre nous et les troupes était finalement assez courte. Cela signifiait un tir de barrage sur le premier rang, parce que sinon, le deuxième aurait été frappé dans le dos. Donc, c'était une véritable dynamique à apprendre. Chaque cortège avait ses propres dépaveurs. Rome était encore, à cette époque, presque dans sa totalité, recouverte de pavés. Donc on faisait des réserves sur les côtés pour en avoir à portée de main. Ce fut ma leçon de géométrie et de géologie à la fois. Parce qu'à Naples, d'où je venais, on marchait sur des pavés basaltiques vésuviens. Rien à voir. La lave qui avait échoué sous nos pieds était présente en grands blocs. Pas possible d'en avoir l'usage abusif du verbe « dépaver ». Il y avait parmi nous des enfants de politiciens célèbres, de ministres, de députés, de sénateurs. Nous étions les extra-parlementaires. Nous étions dans la rue, nos assemblées étaient impromptues et le siège de la démocratie, c'était souvent le trottoir. Alors finalement, cette démocratie, nous l'avons vécue à la lettre. Et avec les éminentes personnalités dont certains étaient les enfants, la rupture a été rude. Ben oui. Évidemment, les convictions étaient opposées. Alors, la révolte à la maison, les tables quittées d'un brusque recul de la chaise, le refus de l'assiette devant soi, les voix qui montaient, l'échange d'accusations, les insultes politiques, les portes claquées, les clés jetées par terre, les voix des mères qui s'exclamaient et qui parcouraient en pleurant le corridor pour courir derrière l'enfant. Oui, sans doute, ils ont connu ça. Nous avons connu ça, nous étions intraitables, nous étions un mélange de raison et de colère. Les enfants des pères privilégiés ajoutaient le reniement du nom à la Révolution. Les pierres qu'ils lançaient étaient contre le système et étaient même contre leurs parents. Le tir laissait un contrepoids dans l'épaule encore plus engourdi pour le lancer suivant. Mais il y avait aussi le droit à l'oubli. Et je l'ai retrouvé, l'oubli et la mémoire. J'ai retrouvé ça dans le Musée national d'art moderne de Valle Giulia, qui a fait, en 2018, une rétrospective sur l'art de 1968. Et j'ai retrouvé les banderoles « È solo un inizio », « Ce n'est qu'un début ». Ce qui, évidemment, était le début aussi de « Continuons le combat ». Ce qui a donné, nous, le nom de notre lutte, le nom de notre organisation révolutionnaire italienne qui était « Lotta Continua ». J'ai visité l'exposition, elle était plutôt pauvre et plutôt muette. Mais en dehors de la banderole « È solo un inizio », j'y ai retrouvé aussi un pavé romain qui aurait pu peut-être aussi être un pavé parisien. Cette petite exposition ne montrait rien de particulier, mais quand même un pavé, puis dans la salle suivante, des pavés bien entassés, bien en ordre sur le sol. Je me souviens même de l'auteur, ou enfin de l'artiste qui les avait accumulés là. J'ai entrevu la force politique qui était posée dans cette salle, contre les lois de la gravité. J'aurais pu en détacher un seul ou le lancer en l'air. J'aurais pu ébranler l'échafaudage, plutôt l'empilement de pavés, de ces pavés empilés, inertes dans une salle d'exposition. J'aurais surtout voulu les empoigner et les lancer. È solo un inizio, lotta continua. Alors, la lutte continue, oui, sous les pavés la plage. Bah, écoutez, c'est le printemps, ça sera le choix de la journée. Ou bien vous allez lancer des pavés, ou bien vous allez passer la journée à la plage. Alors, à bientôt pour d'autres réjouissances. On vous emmènera la semaine prochaine dans un autre voyage. Merci. À bientôt.
La parole, l'idée tape, l'y chante, l'y danse. Don cabas. Sacre parole, l'idée tape, l'idée en cabas.